Bon, donc tout le monde, ça va bien? C'est bien.
Écoutez, c'est dimanche et il fait encore très 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 chaud. Enfin, c'est normal, on est au mois d'août, hein. On dirait en Afrique. Nous allons faire une lecture dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10-13. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 13. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc ils parlent des prophètes qui étaient dans l'ancienne alliance, qui cherchaient à comprendre et qui sondaient le cœur de Dieu, mais aussi qui sondaient les Écritures qui les avaient précédées afin de pouvoir faire des regroupements et pouvoir avoir la pensée de Dieu. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Amen. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé le message. Et ben voilà, si vous êtes sauvés, c'est parce qu'un jour, Raphaël m'a prêché l'Évangile, que je vous ai prêché l'Évangile, vous avez entendu l'Évangile, certains d'entre nous l'ont entendu ailleurs, hein, comme Marie-Claire par exemple, s'est convertie ailleurs. Voilà, bon, il y a des cas comme ça dans la communauté, mais la plupart des gens de la communauté, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a une lignée qui est faite et qui doit être respectée. On respecte les anciens prophètes, on respecte aussi les prophètes modernes, les prophètes, les porte-paroles de notre temps. Et ce matin, je voudrais vous exhorter à avoir votre intelligence éveillée, comme il nous l'a dit là, et d'être vif dans votre intelligence et de comprendre les choses. Seigneur, je te prie que cela soit et que mes frères et sœurs saisissent bien la pensée que tu veux leur donner aujourd'hui. Amen.
Amen.
Quand on a rencontré Jésus, la porte était entrouverte, elle était pas fermée, mais n'était pas grande ouverte non plus. Il a fallu que, d'abord, on la trouve, et puis ensuite, on frappe à cette porte, parce que nous étions tous à la recherche, nous étions en demande de sacré, en fait. Nous avions conscience qu'il y avait quelque chose de plus, n'est-ce pas, que ce que nous vivions simplement sur cette terre. Il suffit de lever les yeux au ciel et de penser un peu pour se rendre compte que, voilà, il y a plus que simplement ce que nous vivons au jour le jour. Et en vérité, c'est en profane que nous avons frappé à la porte. On était des profanes, on ne savait rien, on ne comprenait pas grand-chose. Et la personne ne peut entrer par la porte à moins d'être prédestiné. Là, alors je répète, parce que nous avons un chien, il est gentil, il s'appelle Severus, mais quand il entend klaxonner ou quand il entend sonner, alors il aboie. C'est un réflexe parce qu'il veut nous avertir, il veut nous protéger. Il est un petit peu comme moi, j'aboie de temps en temps pour vous avertir. Alors si quelqu'un pouvait se lever et aller lui fermer sa gueule, ça serait bien. Merci. Donc, cette personne ne peut entrer par la porte à moins d'être prédestiné. Il faut quand même le savoir. Il faut quand même le savoir. Vous ne pouvez pas savoir que si vous êtes prédestiné ou pas tout de suite. Vous ne pouvez pas le savoir tout de suite. Ce n'est qu'avec le temps que les choses deviennent claires, non pas à vos yeux, mais aux yeux des élus. Ça, c'est quelque chose aussi d'important à comprendre. Jésus affirme clairement, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, 12. J'entendais un frère l'autre jour qui étaient chez moi et qui parlaient à mes amis et qui disaient « Oh, moi, je suis pas sûr du tout que c'est que par Jésus et tout, je laissais causer. » Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça fait plus de 30 ans qu'il entend l'Évangile et il en est encore là. Non, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et nous savons que si quelqu'un ne l'a pas entendu sur cette terre, le message dont les prophètes ont... Ils ont fait des investigations, ils ont cherché autrefois, ensuite Jésus est venu, il a fait ce qu'il devait faire ensuite. Les apôtres ont écrit les choses ensuite, de génération en génération, le message s'est propagé, et si quelqu'un ne l'a pas entendu, il a encore une chance de l'entendre dans le séjour des morts. Amen. Et nous nous faisons baptiser à leur place, parce que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. On ne vient au Père que par... Jésus dit... On ne vient au Père que par moi. Et il ajoute, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Vous voyez, ça rétrécit, la chose. Et Dieu attire, en fait, c'est ça qui est formidable, tout le monde. Car il aime le monde. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est vrai, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, mais le Père attire tout le monde. Et c'est pourquoi, il est dit aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous avez des immenses réunions qui sont partout, vous avez des bouquins, vous avez Internet, vous avez plein de gens qui parlent de Jésus, et vous avez plein de gens qui entendent parler de Jésus, ils sont appelés, mais il y a peu d'élus. Seuls les siens seront sauvés. Alors, oui, bien sûr, seuls les siens seront sauvés, mais on est à lui déjà dès avant la fondation du monde. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Il est le bon berger qui connaît ses brebis. Jean 10, 14, ça veut bien dire qu'il y en a qui ne sont pas ses brebis. C'est clair, il y a des brebis qui ne sont pas à lui. Et celles-là, elles entrent, celles qui sont à lui, elles entrent dans l'Église, c'est-à-dire dans la communauté du Seigneur, celles qui sont à lui, mais les autres, elles entrent par un autre endroit. Elles entrent, mais par un autre endroit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, par la porte, c'est-à-dire par Jésus-Christ, mais qu'il s'y introduit par un autre endroit, c'est un voleur et c'est un brigand. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, Jean 10, 1. Donc on peut s'introduire dans l'Église en entrant par autre chose que la porte, en entrant par un autre moyen que par Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'enclos des brebis, c'est-à-dire dans l'Église, mais qui ne sont pas entrés par la porte. Alors ils finissent toujours par se dévoiler. Ce sont des voleurs, ce sont des brigands. Paul écrivait à Timothée, les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. 1 Timothée 5, 24. Et là, ça met du temps. Les gens sont là, ils sont entrés dans l'église, en passant par ailleurs que par la porte, et ils sèment la pagaille dans l'église. Pas toujours tout de suite, mais un jour, celui qu'on trouvait si gentil, eh bien, il se trouve qu'il se révèle que c'est un loup, voleur, ravisseur, tueur de brebis et tueur de rêves. Et l'Église a toujours, depuis le départ, été infestée par cette sorte de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y en a même parmi ces gens-là qui vont arriver jusque dans la salle des noces avant d'être dévoilé. Matthieu 22, 11, 14. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux gens de service, « Prenez-le et jetez-le. Le pied et poing liés dans les ténèbres de dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Voilà, c'est la version, vous savez, la nouvelle version dont je vous parle souvent. Comment peut-on entrer dans l'Église de Jésus-Christ autrement que par la porte, autrement que par Jésus-Christ? Eh bien, on peut y entrer sans s'être réellement repenti. Parce qu'on trouve ça sympa, parce qu'on chante, parce que les gens sont gentils, parce qu'on a des copains là-dedans, ou parce que on a des bons sentiments religieux dégoulinants, ou simplement, malhonnêtement, comme Ananias et Saphira, qui ont trouvé un intérêt. Alors, c'est pas forcément un intérêt matériel, mais ça peut être un intérêt spirituel, un intérêt de relation, un intérêt de toutes sortes. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'il y a des gens qui rentrent dans l'Église de Jésus-Christ. Vous avez aussi des gens qui rentrent dans l'Église de Jésus-Christ par peur. Ce sont ces gens qui vont dans les églises où le pasteur est toujours en train de parler de l'enfer et de le menacer tout le temps de la perdition et de l'enfer éternel, et les gens ont la trouille, et puis alors ils se convertissent comme ça. Mais ils n'entrent pas par Jésus. Jésus, c'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. En fait, on entre de plus en plus dans l'église de Jésus-Christ comme on entre dans un moulin. C'est une expression bien française, ça. Je ne sais pas pourquoi, on dit « Oh là là, on rentre là-dedans comme dans un moulin ». Je ne sais pas si... Il faudrait aller voir, on a des moulins ici, il faudrait qu'on voit si on peut rentrer facilement dedans. C'est-à-dire que les critères dans les églises contemporaines sont de moins en moins stricts, de moins en moins sérieux. C'est vrai, il faut le reconnaître. Bienvenue, voilà, vous êtes merveilleux, ça fait des dîmes en plus, c'est super, c'est génial. Et beaucoup de ces gens qui rentrent là sont des handicapés de la conscience. Ils n'ont pas conscience du sacré. Ils entrent dans l'église, ils se trouvent avec des saints, ils ne savent pas. La Bible dit, vous êtes des saints, parce que vous avez été sanctifiés par Dieu, et vous vous sanctifiez vous-même. Ils ne se rendent pas compte, ils vous traitent comme n'importe quoi, et ils sont là en compagnie de faiseurs de miracles, mais ils n'ont aucun respect, rien du tout, rien. C'est effarant. Enfin, écoutez bien, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit de déchiffrer le nombre de la bête qui est 666. On va lire ça dans Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, 18. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Alors, le mot chiffre, ça signifie autre chose que le mot nombre. Vous le savez, ça. On écrit les nombres avec des chiffres. Vous avez appris ça à l'école. Je vois Alice qui regarde. C'est vrai, oui, bien sûr. Tous les nombres s'écrivent avec 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis les nombres s'écrivent avec ces chiffres-là. Dans la sagesse ancienne, c'est bien de lire les vieux, ce que les vieux pensaient. Les vieux, c'était quand même pas tous des cornichons. Hein. C'était, il y a des gens... Vous savez, ils ont découvert une tablette babylonienne qui est en train de remettre en cause plein de choses de la mathématique moderne. Vous savez ça? J'ai découvert ça aujourd'hui dans les infos. Ils disent c'est absolument aberrant. Plus précis, plus. Enfin, vous lirez ça, c'est dans les infos de ce matin. Dans la sagesse ancienne, on disait que les chiffres sont du domaine du profane. Les chiffres servent à compter dans des quantités, si vous voulez. Par contre, on disait que les nombres appartiennent au monde qualitatif. Les nombres sont liés à l'esprit qui anime tout, qui anime toute structure. Alors, vous êtes une personne, un, c'est un chiffre. Un est la quantité de personnes que vous êtes. Vous êtes un. En entrant dans l'église par la porte, Jésus dit que nous devons être un seul cœur, une seule âme. Et nous devons être un avec Dieu. Donc nous ne sommes pas un nombre. En entrant dans l'église par la porte, vous continuez à être un, même si vous êtes avec un grand nombre de personnes. Jésus veut que nous soyons un, c'est-à-dire entiers, personnellement, mais que nous soyons un aussi entre nous. et que nous soyons un avec lui comme lui, il est un avec le Père. Pas de nombre là-dedans. Chiffre. Alors, il ne peut pas y avoir de division dans l'unité divine. L'Église primitive, elle était composée d'un grand nombre de personnes, mais ils étaient un seul cœur, une seule âme. Pas possibilité de diviser quelque chose qui est divin. Quand l'amour s'est refroidi, l'unité a été rompue. Mais quelle unité et par qui ? C'est qu'ils étaient introduits là-dedans des gens qui n'avaient rien à voir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Et c'est pour ça qu'il y a eu division. C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient rentrés là-dedans, mais qui n'avaient rien à voir avec l'unité de Dieu, avec l'unité de l'Église, avec le chiffre. Ça a été divisé par des gens qui sont entrés par ailleurs que par Jésus, par ailleurs que par la porte, par un nombre d'hommes. Ça a été divisé par un nombre d'hommes, je dirais, sans trop exagérer, sataniques. C'est-à-dire des antichrists. Écoutez bien, je ne vais pas vous faire un cours sur la symbolique des chiffres dans la Bible, mais quand même, un tout petit peu. Après, vous irez chercher, vous verrez sur Internet, il y a plein de gens qui font des cours là-dessus très très bien, il y en a des très très bien, il y en a des pas très bien, il y en a des pas bien du tout. Vous irez voir, vous chercherez, vous trouverez. Le 1 symbolise l'unité, c'est la moindre des choses, je ne vais pas vous donner du verset biblique pour vous le prouver. Le 2 symbolise le témoignage. Par exemple, dans Genèse 19.1, c'est deux anges qui viennent témoigner à Abraham, qui viennent parler à Abraham. Dans Jean 20.12, c'est deux anges qui viennent témoigner de la résurrection de Jésus au tombeau, etc. etc. Le 2, donc, représente toujours le témoignage. Quand on témoigne, on témoigne à quelqu'un. Donc, on est au moins deux. Le 3 symbolise la plénitude de la divinité, parce que nous savons qu'il y a le Père, qu'il y a le Fils, et qu'il y a le Saint-Esprit, et nous savons que c'est un Dieu, que c'est une personne, c'est pas trois personnes distinctes, c'est une personne manifestée sous trois formes différentes, et ça continue encore, puisque le Père est assis à côté du Fils, et ils vivent en nous, par le Saint-Esprit, qui est leur esprit, c'est eux, c'est lui. Mon esprit, c'est eux, c'est lui, c'est un. Donc le 3 symbolise la plénitude divine. Le 4 symbolise le terrestre, les 4 saisons, les 4 évangiles, c'est-à-dire, ça symbolise, vous savez, les 4 évangiles, c'est la manifestation écrite des 4 êtres vivants qui sont auprès du trône de Dieu. Enfin voilà, je résume, je vais vous faire un cours là-dessus. Le 5 symbolise la grâce divine et la faiblesse de l'homme face à ses responsabilités. Je crois que je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Le 6 symbolise l'homme, l'imperfection. Goliath, par exemple, avait 6 coudées de haut. Samuel 17, 4. Il y avait un autre de ses frangins, il avait 6 doigts. Bon, enfin, etc., etc. Le trône de Salomon avait 6 degrés, 6 marches. Hein, vous trouvez ça dans un roi, 10, 19. Il y a plein de textes dans la Bible qui nous montrent, voilà. Ça signifie, c'est l'imperfection. Selon Jésus, l'homme n'accomplit que 6 œuvres charitables. Vous saviez ça ? 1. Visiter les malades. 2. Désaltérer les assoiffés. 3. Nourrir les affamés. 4. Visiter les prisonniers. 5. Vêtir ceux qui sont nus. 6. Accueillir les étrangers. Ça, c'est les 6. Ça nous laisse dans l'humilité. On ne peut pas accomplir quelque chose de parfait. C'est les 6 choses obligatoires. Matthieu 25, 35 à 36. Maintenant, le 7 symbolise la perfection spirituelle, ce qui est complet, la plénitude. Il y a 7 demandes dans le Notre Père qui est aux cieux. 7 demandes, vous les lirez, hein. Matthieu 6, 9 à 13. Sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles. Dans l'Église, au commencement, il y a eu 7 diacres. Il y a 7 esprits de Dieu, Ésaïe 11, 2. Il y a les 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 trompettes, les 7 tonnerres, les 7 fléaux, les 7 coupes, enfin c'est là. Voilà. Si le chiffre 3 est le chiffre de la divinité, dans sa plénitude, dans son unité, et que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, et donc de l'imperfection. 6, c'est quoi? C'est 7 moins 1, c'est-à-dire la perfection moins l'unité. Ah! Vous me suivez toujours? Si le 3 est perfection divine, perfection plus imperfection, c'est-à-dire 3 plus 6, 3 fois 6, égale 666, égale l'Antichrist, égale la perfection de l'imperfection. La perfection de l'imperfection, c'est tous ces gens qui rentrent dans l'Église et qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas entrés par la porte. Voilà où il se niche l'Antichrist. Le chiffre 666 représente le parfait de l'imperfection. C'est le nombre de l'homme que l'Esprit nous dit de déchiffrer. C'est ce que ça veut dire, déchiffrer. Chiffre par chiffre. Vous saisissez, si vous n'avez pas bien compris, heureusement, c'est enregistré, vous allez pouvoir le réécouter. L'Antichrist agit, la Bible nous dit, dans les fils de la rébellion. Dans les fils qui se rebellent contre le Christ, c'est-à-dire qui n'écoutent pas sa parole ou qui n'en prennent que certains passages, mais le reste, ils laissent tomber, ils n'en veulent pas, parce que voilà, c'est plus pour notre temps, c'est trop difficile, c'est trop dur, voilà. Hein. Ils se défilent de... Ils se rebellent contre son autorité, contre le Christ et contre son œuvre. Qu'est-ce que c'est son œuvre? C'est son Église. L'œuvre number one, l'œuvre numéro un de Jésus, c'est son Église. Mais pas n'importe quelle Église. Son Église, selon le modèle biblique dans Acte 2 et Acte 4, se rebelle là contre. L'esprit de la rébellion entre dans l'Église par ailleurs que par Jésus, par ailleurs que par la porte. Il y a d'autres entrées, je vous ai dit, hein, je vous ai expliqué. Et c'est ainsi. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais on est infesté. On faisait notre étude vendredi, je dis ça pour ceux qui nous écoutent sur Internet, le vendredi nous étudions un bouquin qui s'appelle « L'histoire de l'Église des saints du dernier jour », donc des Mormons, c'est un énorme bouquin, on en est à peu près à la moitié en un an d'étude. Et en lisant à peu près 8 pages, c'est un sacré bouquin. Et c'est énorme, c'est très historique. C'est-à-dire qu'on peut contrôler, avec l'histoire américaine, on voit que ça joue, c'est juste. Et on voit que, par exemple, Joseph Smith a rencontré un certain monsieur John Bennett, qui était génial. Il était pas génial, John Bennett? Ouais, super John Bennett. Vous voyez, quelle œuvre de destruction ce John Bennett a occasionné. Et pourtant, il était tellement bien. Il était le second de Joseph Smith. C'est quand même incroyable. C'est la perfection de l'imperfection. On va lire 1 Jean, chapitre 2, verset 18-23. 1 Jean 2, 18-23. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Amen. C'est la vérité, je vous dis juste ces deux textes, ces deux versets. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Nous ne sommes pas sortis d'eux. C'est parce qu'ils étaient en nous, un avec nous, et qu'ils ont apostasié que géographiquement, nous sommes partis, mais nous sommes restés un. Alors qu'eux se sont encore divisés. Mais c'est nous qui les avons conduits, ouverts, c'est nous qui leur avons ouvert la porte de l'Église, c'est nous qui leur avons prêché l'Évangile, et pas le contraire. Donc ce n'est pas nous qui sommes sortis, c'est eux qui sont rentrés et qui sont sortis, même si géographiquement c'est nous qui sommes partis. Vous saisissez la chose? Il faut que ça soit clair. L'apôtre dit, il faut que ce soit bien clair.
Alors il dit, mais cela est arrivé afin que soit bien clair que tous ne sont pas les nôtres.
Il faut que ça soit bien clair. C'est pas nous les apostats, c'est eux. Il faut que ça soit clair dans votre pensée. Et dans la leur, s'ils écoutent. Nous ne sommes pas sortis d'eux. C'est nous qui les avons reçus dans l'Église et non le contraire. Ils ont semblé être des nôtres pendant longtemps, mais ils n'étaient pas des nôtres. Quelqu'un était venu me dire, pour ne pas la citer, c'est Liliane. Elle était venue au château, elle m'avait montré tous les frères qu'elle est apostasie, les sœurs. Elle m'a dit, celui-là, celle-là, celle-là, celle-là. Le Saint-Esprit l'avait montré. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas cru, je lui ai dit, mais arrête. C'est des gens super, ils sont avec nous depuis des années, ils sont merveilleux, c'est des gens magnifiques. Je n'ai pas écouté. Vous voyez, comme quoi des fois, il faut me parler un peu fort des fois pour que je comprenne les choses. Et voilà. Ils ont apostasié, ils sont partis. Ils semblaient être des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres. Cela ne s'est pas manifesté tout de suite, mais cela est venu à la lumière, parce que ça doit venir à la lumière. Mais il y en a, ça ne vient jamais à la lumière. Ils continuent à être dans l'église. Et même ils rentrent dans la salle du royaume. Ah, mais ils ne sont pas habillés corrects. Et là, c'est Jésus qui les fout dehors. Vous voyez, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Il faut toujours qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on s'exhorte, qu'on se fortifie les uns les autres à être fidèles, à ne pas se relâcher en rien. Alors veillons. Nous qui sommes fidèles, après avoir frappé à la porte, veillons à quoi? Vous savez, quand on est entré, comme je vous disais au départ, on était des profanes. Mais, ça veut dire qu'on ne se doutait de rien. Il y a juste une chose qu'on savait, c'est qu'on allait apprendre des choses et que ces choses que nous allions apprendre, cet apprentissage, allaient nous rendre responsables. On n'apprend pas quelque chose sans devenir ensuite responsable. Vous êtes dans l'église, Actes 2, 4, vous êtes des disciples, Luc 14, 33, et vous savez que Jésus nous demande constamment des transformations et des progrès, et que nous aurons toujours des combats, toujours. Hier matin, j'ai reçu ce message. Lorsque vous aurez manifesté votre volonté d'obéir, l'Esprit Saint vous enverra d'autres inspirations relatives à ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour lui. Mais il faut d'abord manifester notre volonté d'obéir. D'obéir à quoi? La première chose, c'est l'amour. Aime ton prochain. Et quand on aime, on sert notre prochain. Celui qui ne sert pas son prochain, on ne peut pas dire qu'il l'aime. Donc être au service. Obéir, on te demande de faire une chose, fais-le, presse-toi de le faire même. Il faut oser obéir, parce que ça c'est quelque chose, hein. Du courage pour obéir. Oser faire la volonté écrite de Dieu, oser croire et faire confiance aux serviteurs de Dieu, oser continuer à aller de l'avant sur un chemin qui est semé d'embûches, oser envers toutes les contradictions qu'on peut rencontrer, oser. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage à continuer à oser ce matin. Que vous soyez en pleine forme, ou que vous soyez malade, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, osez continuer. Vous avez franchi la porte. C'est par Jésus que vous êtes entré. Et je le vois. Je le vois pour chacun d'entre vous. Je le vois. À votre comportement, aux fruits paisibles que vous portez. Je vois ça, c'est clair, les fruits paisibles que vous portez. Vous n'êtes pas entré dans l'église par ailleurs que par Jésus-Christ. Sa marque, elle est vraiment sur vous. Ce n'est pas la marque de la bête, c'est la marque de Jésus-Christ. C'est la marque de votre amour, de votre dévouement, de votre fidélité, de vos efforts, de vos sacrifices, de votre dignité dans la souffrance, dans la maladie. Tout ça, ça me montre vraiment que oui, vous n'êtes pas passé par ailleurs que par Jésus. Vous êtes vraiment entré par Jésus. Et ça, ça me fait du bien. Et je pense que vous aussi, ça doit vous faire du bien de regarder vos frères et sœurs et de voir qu'ils ont cette marque sur eux. Amen. C'est une véritable marque parce que on peut pas en dire autant de ceux qui paraissaient être des nôtres et qui n'étaient pas des nôtres. C'était, il fallait tout le temps. C'est vrai qu'ils étaient charmants pendant longtemps, gentils, mais il fallait quand même toujours les tirer, il fallait quand même toujours les pousser, il fallait toujours les retenir parce qu'il y avait toujours des machins, des trucs, des c'était difficile. Maintenant, on ne connaît plus cette position-là. On ne connaît plus ça. Oui, vous avez été blessé. Vous avez été blessé par vos propres frères et sœurs, entre guillemets. Et vous avez été aussi, pour certains, blessé par vos propres familles. Mais je vois que tout ça, ça vous a fait monter des marches. Ça vous a fait monter des degrés. Vous êtes en progression. Vous avez progressé. Depuis le temps qu'on est là, vous avez tous progressé. Vraiment. Vraiment. Et vous avez progressé pour aller jusqu'au plus haut degré, jusqu'aux plus hautes marches. C'est votre désir, ça se voit, je le vois, je l'entends. Mes frères et sœurs, je vous aime. Amen. Amen. Jésus, je te prie de mettre dans le cœur de mes frères et sœurs comme un baume les paroles que je viens de dire, que c'est vrai. Donne-leur par le Saint-Esprit que les paroles que j'ai dites ce matin, elles sont vraies en ce qui les concerne. Véritablement. Je les aime, j'aime mes frères et sœurs, je vous aime. Seigneur, montre-leur que c'est vrai, encourage-les, soutiens-les, fortifie-les, soutiens ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades, aide-les. Seigneur, guéris-les, soulage-les. Seigneur Jésus, je te prie d'aider ceux qui sont fatigués, de les aider par ton Saint-Esprit de force. Merci pour le pain, pour le vin. C'est-à-dire pour ton sang et pour ta chair que nous prenons tous les jours maintenant. Merci parce que c'est véritablement une nourriture. Merci parce que ça me nourrit et je crois que ça les nourrit. Je te remercie Seigneur parce que nous allons voir que nous allons petit à petit, par l'exercice et la bonne nourriture que nous prenons, prendre des forces et du muscle et être de plus en plus à ta gloire jusqu'à ton glorieux retour. Nous voulons aller jusqu'en haut, au plus haut qu'il est possible d'aller pour ta gloire, parce que nous t'aimons Jésus, nous voulons te voir face à face tel que tu es, et nous voulons te voir véritablement dans ta gloire bientôt Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu.